France Info.
France Info. 36 ans de carrière au sein de la police judiciaire, numéro 1 aujourd'hui de la direction centrale de ce qu'on appelle communément la PJ. Bonjour Mireille Balestrazzi.
Bonjour.
La PJ, c'est la lutte contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants, la délinquance financière ou encore la cybercriminalité. Plus de 5000 policiers. En tant que numéro 1, vous pensez quoi de la réforme pénale dont il a été beaucoup question cette semaine ?
Alors je veux dire, en tant que policier, nous travaillons dans le cadre des lois qui nous sont données, donc je n'ai pas d'avis supplémentaire à donner.
Plus ou moins de prison, qu'est-ce que vous en pensez ? Lutte contre la récidive, c'est un peu le cœur de cette réforme.
Bon, je pense que de toute manière, il est bon de toujours chercher des voies pour mieux lutter contre la récidive, parce que c'est quand même un vrai sujet. Mais je n'ai pas à me prononcer sur les lois que le législateur donne à la France.
C'est Manuel Valls, encore ministre de l'Intérieur, qui vous a nommé, c'est en décembre dernier, à la direction centrale donc, de la police judiciaire. Vous en étiez déjà le numéro 2. C'est assez rare dans votre carrière, on va la dérouler ensemble, mais pour une fois, pour cette fois-là, vous n'avez pas été la première femme à ce poste.
C'est exact. Martine Monteil a été directrice centrale, la première directeure. Et bon, c'est une grande fierté. C'est vrai que j'en étais à la fois très heureuse et en même temps très consciente du challenge et de la responsabilité.
Il y a une volonté de féminisation de ces hautes fonctions au sein de la police judiciaire.
Je pense qu'il y a une volonté générale en France de permettre aux femmes d'accéder au poste de la haute fonction publique. En même temps, je me dis que peut-être j'ai été aussi choisie parce que j'avais quelques compétences. Je l'espère en tout cas.
Mireille Monteil, vous en parlez. Vous étiez dans la même promotion à l'ENSP. C'est l'école qui forme les commissaires de police. Il y avait déjà de la concurrence entre vous à l'époque ?
Non, il n'y a jamais eu de concurrence. Au contraire, à l'école, nous étions très très amis. Nous étions 8 sur une promotion de 100. Donc c'est vrai qu'on avait quand même notre petit groupe de femmes. On était très très liées.
Alors c'était la promotion 1976. 8 femmes, vous venez de le dire au total. C'était la deuxième promotion qui était ouverte aux femmes et vous faites donc partie de cette finalement première génération de femmes commissaires de police. Est-ce que ce rôle de pionnière vous a plu ?
On n'a pas conscience qu'on est des pionnières quand on le vit. Mais par contre, moi je sais que sur certains postes qu'on m'a confiés au début de ma carrière, le directeur central de la police judiciaire d'alors m'avait dit « Vous allez essuyer les plâtres pour celles qui vous suivent. Si vous réussissez, on aura confiance. Si vous ne réussissez pas, on ne pourra pas leur confier ce style de poste. » Donc là, du coup, j'ai pris conscience que oui, il y avait quand même une responsabilité.
Pression.
Oui, il y avait la pression.
Alors, vous avez essuyé les plâtres, mais plutôt avec succès. À la sortie de l'école, à 24 ans seulement, vous devenez chef de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Bordeaux. Comment vous ont accueilli vos collègues masculins ? Là, vous étiez la première femme.
Sur Bordeaux, j'ai vu des inspecteurs. À l'époque, c'était des inspecteurs. Aujourd'hui, on les appelle officiers, qui étaient assez ouverts. Mais j'en ai vu d'autres, pour eux c'était le ciel qui leur tombait sur la tête. Véritablement, ils en étaient très malheureux. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais pour eux c'était qu'est-ce qu'on a fait pour qu'une mama vienne nous diriger en gros. Donc là, il a fallu évidemment gagner leur confiance et leur montrer qu'une femme pouvait être courageuse, d'autorité et exercer le métier à l'image d'un homme.
Il faut en faire plus qu'un homme pour être reconnu ?
À l'époque, oui. J'espère qu'aujourd'hui, ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, hommes ou femmes, les jeunes qui arrivent dans le métier, tous doivent faire leurs preuves parce que les exigences sont encore plus grandes que par le passé. Exigences de ceux que l'on dirige, exigences aussi de la société. Et donc, femmes et hommes, aujourd'hui, doivent faire leurs preuves aussi.
Est-ce que c'est vrai que vous n'aimez pas féminiser l'intitulé de vos postes ?
C'est vrai, parce que je considère que lorsqu'on dit le directeur, c'est pas un masculin, c'est un neutre.
Donc vous êtes aujourd'hui directeur central de la PJ, et pas directrice, c'est ça ?
Exactement.
Alors c'est l'aboutissement d'un parcours de 36 ans, je le disais, au sein de la police judiciaire. Vous avez gravi les échelons les uns après les autres. On parlait de Bordeaux à l'instant. Après, vous avez été nommé aussi à Creil, à Argenteuil, à Montpellier. Et puis il y a eu une période corse. C'était en 1993, un peu au pire moment quand même de l'affrontement entre nationalistes. Il y avait à l'époque, pour qu'on se rende compte, plus de 600 attentats par an. C'est bien ça, on ne parle pas non plus des règlements de compte. Vous gardez quel souvenir de cette période ?
Je crois que vous êtes bien renseignée. C'est vrai que c'était une période très
difficile. Pour décrire le contexte,
oui, il y avait 600 attentats par an. Beaucoup d'homicides et règlements de compte entre groupes nationalistes. C'est une période, on va dire, ambivalente, à la fois très dure, parce qu'on dormait très peu, on travaillait beaucoup. Dure aussi parce que voir des gens qui sont frères s'entretuer comme ça, au bout d'un moment, on ne comprend pas et on pense aux familles aussi. Hein. En même temps, une population très attachante. Quand on est adopté par les Corses, comme on dit là-bas, ils nous donneraient leur chemise. Voilà, c'est les deux facettes.
Vous avez des racines vous-même italiennes et corses, je crois.
Oui, j'ai un peu de sang corse, oui, italienne aussi. Espagnole aussi.
Ça a aidé, vous pensez?
Je ne sais pas si ça a aidé. Mon nom évoque quand même plutôt une couleur locale,
ouais.
Du sud. Ça a pu aider, mais je pense que c'est surtout ma détermination d'essayer de reconquérir la confiance de la population. Le fait que j'étais avec ma famille, mes enfants étaient scolarisés, mon mari aussi. Donc on vivait quelque part normalement. Ça aussi, ça peut compter.
Justement, vous parliez de votre famille, vous avez eu deux enfants, deux fils. Cette vie de femme au sein de la police judiciaire, ces nombreuses affectations tous les 2, 3, 4 ans, c'est compatible avec une vie de famille, avec la pression, avec la charge de travail?
C'est difficile. Il y a beaucoup de sacrifices de la part de la famille. Donc moi, j'ai eu la chance, je pense que mes enfants ont un peu souffert, même s'ils ne me le reprochent pas du tout et qu'ils sont fiers de leur maman. Mais je pense qu'il y a une part de sacrifice de la famille et que ça ne peut fonctionner que si ces sacrifices sont acceptés. Donc moi, je rends beaucoup hommage à ce soutien de ma famille, autant de mon époux que de mes enfants.
Je reparle de vos enfants. Vos deux fils ont une trentaine d'années aujourd'hui. Ils ont suivi votre voie au sein de la police?
Non, ils auraient pu, mais ils ont choisi des voies différentes. Mais en même temps, ils aiment bien l'action. Voilà, on se reconnaît là.
Vous leur avez légué ce côté-là. Est-ce que le terrain vous manque aujourd'hui?
Par moments, oui. Parce que c'est quand même quelque chose que l'on aime. Depuis quelques années, on vibre avec ceux qui nous racontent ce qu'ils font.
À travers leurs histoires.
Ah oui, voilà, c'est vrai.
L'aventure, j'ai lu que c'était ce que vous vouliez, ce qui vous guidait quand vous étiez petite fille, fille de militaire, deuxième de 5 enfants. Et c'était, il y avait ce côté, vous vouliez faire un métier avec une aventure, c'était ça?
Oui, la part d'aventure, oui. Je trouve que la vie est tellement courte et tellement belle qu'il faut justement essayer toujours d'aller vers l'inconnu. Moi, c'est quelque chose qui me permet de m'accomplir, hein, avec toujours la part de risque, la part de challenge, la part de défi, la part de combat. C'est vrai que j'avais envie de ça et je ne regrette pas. Il y a beaucoup de métiers qui ont cette part d'aventure. Le vôtre aussi. Hein.
Effectivement. Mireille Balestrazzi, on a évoqué votre carrière au sein de la police judiciaire. Vous avez une autre casquette depuis 2 ans. Vous êtes à la tête d'Interpol. Interpol, c'est l'Organisation internationale de la police, institution créée en 1923 pour coordonner les polices. Alors, 190 États membres aujourd'hui. Là aussi, vous êtes la première femme à ce poste. Vous vous êtes battue pour l'avoir, ce poste. Il y a un certain prestige, j'imagine.
Je pense que la fonction de président d'Interpol, moi, je lui donne évidemment un sens. Ce n'est pas uniquement pour dire un titre honorifique, parce que au travers de la présidence, je défends les valeurs de la France et je pense que c'est extrêmement important. Et puis, j'ai une vision. Hein, c'est une vision pour cette coopération internationale, vision de vraiment être à l'écoute des pays qui ont besoin qu'on les aide, qu'on forme leurs services de police, qu'on tente de les équiper. Des pays où les femmes policières attendent aussi de pouvoir accéder à plus d'égalité avec les hommes. Ces pays-là sont nombreux. Et aussi de promouvoir la coopération au maximum, développement des outils. Et je pense qu'aujourd'hui, on le dit de manière très banale, nous vivons dans un monde globalisé. Mais la criminalité transnationale, elle aussi, elle est mondialisée. Et tout ce qui se passe dans un pays peut, à un moment donné, avoir des conséquences sur un autre pays, même très éloigné.
Alors, deux questions par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à cette menace globalisée de la criminalité. L'affaire Mehdi Nemmouche, soupçonnée donc de la tuerie au musée juif de Bruxelles. On en a beaucoup parlé. De la surveillance des djihadistes de retour de Syrie. Est-ce qu'Interpol a un rôle, peut avoir un rôle, je ne sais pas, notamment dans la surveillance de la Turquie, qui est un point de passage, un point de transit?
Alors, la thématique des combattants étrangers, et notamment ce qu'on appelle la filière syrienne, est un sujet qui préoccupe beaucoup de pays. J'étais à Washington la semaine dernière, les autorités sont très préoccupées. C'est un sujet qui ne peut pas se faire sans coopération, déjà au niveau de l'Union européenne et plus largement au niveau de l'Europe et plus largement au niveau mondial.
Je vous propose, pour terminer cet entretien, de répondre à notre questionnaire femme d'exception. Quelle est la femme que vous admiriez quand vous étiez petite?
Tout naturellement, j'avais une admiration totale pour ma maman. Hein, que j'ai toujours. Et puis, j'avais une grande admiration pour ma grand-mère paternelle, qui me fascinait, parce que c'est une femme qui a fait la résistance en France, qui est décorée de la Croix de guerre 39-45. Elle était belle, elle était joyeuse, courageuse. Voilà, j'ai ce modèle-là en tête.
La femme que vous admirez aujourd'hui?
Moi, je pense que je ne peux pas admirer une femme en particulier. Je croise dans ma vie, puisque en plus elle est très large, mondiale, beaucoup de femmes admirables. Donc je dirais que moi, la femme que j'admire, c'est la femme dans son courage. Beaucoup de femmes sont courageuses, dans sa détermination à se battre pour sa liberté, celle de ses enfants, pour l'éducation de ses enfants, pour la survie de ses enfants. C'est ces femmes-là, moi, que j'ai envie de défendre.
Et vous venez de répondre du coup à ma troisième question, qu'est-ce que c'est qu'une femme d'exception? Vous venez d'en donner une définition. Merci beaucoup, Mireille Alestrazzi, d'avoir été notre femme d'exception ce dimanche.
Je vous remercie infiniment.